Chapitre 28. Lucy vérifie discrètement l'heure sur son téléphone pendant que Michael se bat avec une guêpe qui survole son assiette. Il la chasse à coups de serviette, mais l'insecte revient sans cesse. Il est presque 15 heures et Lucy voudrait être rentrée d'ici une heure. Il lui faut les passeports, mais elle sait que les demander, c'est faire un pas de plus vers le lit de Michael. Elle attrape les assiettes pour débarrasser. « Je les emporte à l'intérieur, comme ça la guêpe ne t'embêtera plus. » Il a les yeux vitreux et lui adresse un sourire reconnaissant. « Ouais, bonne idée. Je nous fais un café. » Elle va dans la cuisine et met les assiettes au lave-vaisselle. Michael l'observe pendant que la machine moule les grains de café. « Tu as encore une belle silhouette, Lucy. Pas mal pour une nana de 40 ans qui a eu deux enfants. »«
39 ans, » le corrige-t-elle avec un sourire ferme. « Merci, Michael. »
L'atmosphère est pesante, électrique. Ils ont attendu trop longtemps ce qui doit arriver. Ils ont trop bu, trop mangé, sont restés trop longtemps à somnoler dans le jardin.
« Il ne faut pas que je rentre trop tard à la maison. »«
Marco est un grand garçon, » rétorque Michael d'un ton léger. « Il saura s'occuper de sa petite sœur. »
« Oui, mais Stella n'aime pas quand je la laisse trop longtemps. »
Elle le voit serrer les dents. Michael ne veut pas entendre parler des faiblesses d'autrui. Il déteste ça.
« Bon, » soupire-t-il.
« J'imagine que tu veux les passeports. »«
Oui, s'il te plaît. »
Son cœur bat si fort qu'elle l'entend résonner jusque dans ses oreilles. Il penche la tête sur le côté et lui sourit.
« Tu ne te sauves pas, hein ?»
Il va dans son bureau et elle l'entend ouvrir et fermer des tiroirs. Il revient un instant plus tard, tenant dans les mains une pochette en feutre qu'il agite en direction de Lucy.
« Je suis un homme de parole, tu vois, »
annonce-t-il en marchant lentement vers elle, sans la quitter des yeux, en jouant avec la pochette. Elle ne comprend pas ce qu'il attend. Qu'elle la lui arrache des mains? Qu'elle lui court après? Quoi?
« Merci, »
répond-elle avec un sourire nerveux. Soudain, il se colle à elle. Lucy se retrouve coincée contre le comptoir de la cuisine. Michael tient fermement la pochette d'une main et se penche dans son cou. Elle sent ses lèvres sur sa peau. Elle l'entend gémir.
« Oh, Lucy, 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 tu sens tellement bon. Et tu es tellement... »
allait-il en se frottant à elle.
« Tellement sexy. Tu es... »
Il gémit à nouveau et sa bouche capture la sienne. Elle lui rend son baiser.
« Elle est venue pour ça. Elle est venue pour baiser Michael et c'est ce qu'elle va faire. » Elle l'a déjà fait et elle peut le refaire sans problème, surtout s'il imagine qu'il est Ahmed, ou peut-être un inconnu.
Oui, elle en est capable.
Elle sent sa langue s'insinuer dans sa bouche et elle ferme les yeux fort, fort, fort. Ses mains se glissent sur ses cuisses et la soulèvent, l'assoient sur le comptoir, descendent le long de ses jambes, les placent autour de sa taille, serrent ses chevilles si puissamment qu'elle grimace, mais elle ne s'arrête pas. Elle poursuit son plan. Derrière eux, la machine à café se met à siffler. Sa main heurte un verre vide qui roule et se casse contre la bouilloire. Elle essaie de s'éloigner des morceaux de verre brisés, mais Michael l'en approche tout en remontant petit à petit sa jupe, jusqu'à ce qu'il atteigne sa culotte. Elle tente à nouveau de s'écarter sans interrompre leurs ébats. Il faut qu'elle en finisse. Qu'elle puisse se rhabiller et rentrer à la maison avec les passeports. Elle se concentre pour l'aider à lui retirer ses sous-vêtements, mais elle sent un morceau de verre lui piquer la cuisse. Elle essaye encore de se décaler sur le comptoir, mais Michael se redresse soudainement.
« Bordel, tu vas arrêter de gigoter comme ça, oui? Putain !»
Puis il se colle à elle violemment, et cette fois elle sent le morceau de verre transpercer sa peau. Elle se penche en avant et gémit de douleur.
« Qu'est-ce que tu fous, putain ?»
Comme au ralenti, elle voit la main de Michael s'approcher de son visage et sent ses dents s'entrechoquer, son cerveau rebondir dans son crâne quand elle reçoit sa gifle. Il y a du sang maintenant, du sang chaud qui coule le long de sa cuisse.
« Je me suis fait mal, regarde, il y a du verre et... »
Mais il ne l'écoute pas. Il la repousse sur le comptoir et cette fois le verre s'enfonce dans son dos. Il la pénètre et pose sa paume sur sa bouche. Ce n'était pas censé se passer ainsi. C'était censé être un simulacre de relation consentie. Elle allait le laisser faire. Mais elle est en train de souffrir. Il y a du sang, et elle sent l'odeur de la viande grillée sur la main de Michael, voit la fureur qui s'est peinte sur son visage. Elle veut les passeports. Elle veut ces putains de passeports. Elle ne veut rien d'autre. Et ses doigts se posent sur un couteau, le couteau des tomates, celle qui les avait tranchées si facilement. Elle le tient dans sa main, le plante juste sous le t-shirt de Michael, là où la peau est douce et blanche comme celle d'un bébé, et la lame s'enfonce si aisément qu'elle n'est pas sûre de l'avoir vraiment touchée. Elle observe un voile de confusion troubler brièvement son regard, puis se dissiper quand il comprend ce qui vient d'arriver. Il se retire et titube. Il baisse la tête vers le sang qui s'écoule par jets intermittents de son corps, recouvre la plaie de ses mains, mais le sang continue de couler.
« Putain de merde, Lucie! Qu'est-ce que t'as fait ?»
Il la dévisage, les yeux écarquillés, incrédule.
« Aide-moi, putain !»
Elle trouve des torchons et les lui donne. « Presse ça dessus, fort !» parvient-elle à articuler. Il appuie sur les torchons, mais ses jambes se dérobent, et il s'effondre au sol. Elle veut l'aider à se relever, mais il se dégage. Elle comprend soudainement que Michael est en train de mourir. Elle devrait appeler les secours. Elle les imagine entrer dans la maison. Ils lui demanderont ce qui s'est passé. Elle leur dira qu'il l'a violée. Elle aura des preuves. Le verre encore incrusté dans sa chair. Son pantalon descendu aux chevilles. Oui, ils la croiront. Oui. « J'appelle une ambulance, » dit-elle à Michael qui a les yeux dans le vide. « Respire, voilà. Je les appelle. » Elle sort son téléphone, la main tremblante, l'allume, et s'apprête à composer le numéro quand une idée s'impose à son esprit. Oui, ils la croiront peut-être, mais elle ne sera pas libre. Elle devra rester en France, répondre à des questions, avouer qu'elle vit clandestinement dans ce pays, qu'elle n'existe pas. Elle perdra ses enfants et tout sera révélé, absolument tout, si vite, comme dans un cauchemar. Son index est toujours suspendu au-dessus de l'écran de son téléphone. Elle lance un regard à Michael qui tremble. Le sang s'écoule toujours. Elle a envie de vomir et se tourne vers l'évier. Elle a du mal à respirer.
« Merde, merde, merde !»
Elle se retourne, regarde son portable, puis Michael. Elle ne sait pas quoi faire. Et soudain, ça arrive. La vie quitte son corps. Elle le comprend tout de suite. Elle l'a déjà vu. Michael est mort.
« Merde, merde, merde !»
Elle tombe à genoux et pose ses doigts sur sa gorge pour sentir son pouls. Rien. Elle commence à parler toute seule.
« Ok, bon, qui sait que tu es là ?» se demande-t-elle. « Joy, peut-être qu'il le lui a dit. Mais il aura dit Lucy Smith. Oui, Smith. Ce n'est pas mon vrai nom. Et de toute façon, je ne m'appelle pas Lucy Smith, je m'appelle... »
Elle attrape la pochette de ses mains tremblantes et sort son passeport, qu'elle ouvre maladroitement.
« Marie-Valérie Caron. Bien. Très bien. Je suis Marie Caron. Oui, Lucy Smith n'existe plus. Joy ne sait pas où j'habite. Mais le collège. Michael connaît le collège de Marco. Est-ce qu'il l'aurait dit à Joy? Non, il n'aurait pas fait ça, bien sûr que non. Et quand bien même, ils ne connaissent que Lucy Smith là-bas, pas Marie Caron. Stella va dans une autre école. Personne ne sait ça, à part moi et Samia. »
Les gens qui ont fait les passeports?
Non. Et de toute façon, ils doivent être bien cachés. Les enfants savent que je suis ici, mais ils ne diraient rien. Voilà. C'est tout.
Elle fait les 100 pas tout en réfléchissant à haute voix. Elle s'immobilise et regarde Michael. Est-ce qu'elle devrait le laisser là? Joy le trouverait demain. Ou est-ce qu'elle devrait le déplacer, tout nettoyer, cacher son corps? Il est lourd. Où pourrait-elle bien le mettre? Elle ne pourra pas le dissimuler très longtemps. Mais peut-être assez pour atteindre Londres avec les enfants. Oui, décide-t-elle. Elle va tout nettoyer. Elle va planquer le corps dans la cave, le recouvrir avec elle ne sait trop quoi. Joy viendra demain et pensera qu'il est parti pour quelques jours. Elle ne comprendra qu'il est mort que lorsque le cadavre commencera à sentir. Et à ce moment-là, ils seront déjà loin. La police pensera qu'il a été tué par l'une de ses mauvaises fréquentations. Elle ouvre le placard sous l'évier. Elle sort l'eau de Javel et un rouleau de papier absorbant, puis elle commence à frotter.